Europe 1.
14h-15h.
Clap. Laurie Choleva.
Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver sur Europe 1 pour ce premier jour de l'année et donc ce tout premier clap de 2022. Alors avant de vous parler de votre programme, évidemment, je vous envoie mes meilleurs vœux, je vous souhaite à tous la plus belle des années possibles et surtout une bonne santé. Alors comme disait Jean Cocteau, le cinéma c'est l'écriture moderne dont l'encre est la lumière et de la lumière dans vos vies, c'est tout ce que je vous souhaite aussi pour 2022. Dans la première partie de Clap, entourée de mes critiques, Karel Pitoussi, Franck Vallière et Victor Bonnefoy, nous reviendrons sur les films qui ont marqué 2021. De l'événement d'Audrey Diwan, à Bac Nord de Cédric Jimenez, en passant par Annette de Léo Scarax ou encore Julie en 12 chapitres de Joachim Trier. À 14h20, je recevrai la merveilleuse Virginie Efira époustouflante aux côtés de Romain Duris dans le drame En attendant Beau Jungles, une histoire d'amour à l'épreuve de la maladie ou même de la folie. Et puis dans la dernière partie de Clap avec mes critiques, nous vous parlerons des films les plus attendus de 2022 comme la sortie de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 3, Indiana Jones 5 ou encore le nouveau Batman. Oui, que des suites. Voilà pour le programme de votre Clap qui commence maintenant.
Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Pour cette toute première émission de l'année 2022, je pense qu'il est important de dresser un bilan de l'année cinéma qui vient de s'achever. Comédie, drame, biopic, quels sont les films qui ont marqué 2021 ? Que ce soit de grands films ou des films plus confidentiels, on vous donne nos coups de cœur et ce sera peut-être pour vous l'occasion de rattraper votre retard. À mes côtés, pour retracer l'année 2021, Karel Fitoussi de Paris Match, bonjour.
Bonjour Laurie.
Franck Vallière de Canal+, et Victor Bonnefoy.
Mal à la tête.
Qui ont trop fait la fête hier soir.
Bonne année.
Mais ils vont se réveiller puisqu'on va parler de cinéma. Bonne année à vous aussi. Merci beaucoup d'être là. Alors, je vous ai demandé à tous les trois de me préparer un peu vos top 3 des films qui ont marqué 2021. Déjà, il y a Annette de Léo Scarax que vous avez en commun, Karel et Victor. Alors, Karel,
Pour moi, ça a été vraiment le choc de 2021. C'est à la fois un choc esthétique et mental. C'est paradoxalement le seul film que Léo Scarax n'ait pas écrit, et c'est, je trouve, son plus personnel et son plus lisible. C'est le mea culpa d'un homme toxique et d'un père défaillant, et en plus c'est un film qui est dédié à sa fille. Voilà, je trouve que c'est un spectacle sur l'idolâtrie et la vindicte du public qui est un conte un peu malade. Je trouve ça sublime, il faut le rattraper si vous ne l'avez pas vu.
Victor ?
Je trouve ça brillant depuis Holy Motors, dont j'étais extrêmement fan. J'attendais avec impatience de découvrir Annette et quel parpaing dans la tête nous nous sommes ramassés, puisque, comme le dit Léo Scarax au début du film, So May We Start, c'était un peu le redémarrage du cinéma, les salles qui rouvrent, et on redémarre, on y va avec Annette, où Léo Scarax fait image de cinéma, chaque émotion de ses personnages. C'est magnifique, c'est aussi troublant que
film
dur.
Entièrement joué en chantant.
Exactement, avec une musique magnifique des Sparks Brothers, qui ont eu aussi un très beau documentaire sur eux cette année, réalisé par Edgar Wright.
C'est
un ensemble de planètes qui s'alignent entre un Adam Driver habité, une Marion Cotillard brillante, Simon Helberg, la musique, l'arrière. C'est un très grand film, et il n'y en a pas souvent comme ça. Merci Léo Scarax.
Adam Driver qui n'est pas nommé au Golden Globe comme meilleur acteur,
c'est un scandale.
Voilà.
C'est un scandale.
Bon bah voilà, c'est un scandale du jour.
Et c'est un portrait très cynique de notre époque aussi.
Ah bah oui.
Parce que c'est très désespéré.
De la société du spectacle.
Oui, ouais. De la société du spectacle et de la condition humaine, de comment on se comporte entre nous, c'est waouh.
Karel, vous avez eu deux autres coups de cœur en
2021. Alors moi, j'ai vraiment adoré First Co, qui est en fait un western pour les gens qui n'aiment pas les westerns, je pense. c'est une ode à l'amitié comme remède à l'individualisme. Et c'est un film qui prend le temps d'exister. Et en plus, ça s'est vérifié dans son système d'exploitation, puisqu'il a existé d'abord sur les plateformes. Et finalement, il a trouvé une carrière, une belle carrière en salle. Donc je trouve que c'est un exemple. Enfin, c'est un film un peu à part dans le paysage. Ouais.
Et puis l'événement.
Donc l'événement, c'est une adaptation d'un livre autobiographique d'Annie Ernaux dans lequel elle racontait son avortement clandestin au début des années 60.
Lorsque c'était encore interdit.
Et c'est une adaptation magistrale. C'est un livre qui est très 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 difficile à adapter et elle s'y emploie vraiment avec brio. Et c'est surtout un film sur la liberté des femmes, sur le désir aussi.
Et puis très bien filmé avec une actrice lumineuse, Anna Maria Bartolomei.
Qu'on va retrouver au César.
Oui, je pense aussi.
Je veux poursuivre mes études.
Allez-vous-en, mademoiselle. Nous n'avons plus rien à nous dire.
Qu'est-ce que tu cherches exactement ?
De l'aide.
La loi ne fait pas de cadeaux.
Tu veux finir en prison avec elle ?
Tu crois que c'est comme ça qu'on règle les problèmes d'une vie ?
Je la règle comme je peux, moi.
Vous n'avez pas le choix. Il faut l'accepter. Le corps réagit mal. Il peut y avoir des complications. C'est à vous risque, c'est péril.
Non, non, mais
le grand sage est parmi le penseur.
Ça va, merci de me ramener à mon âge, j'ai 22 ans. Et alors quoi ?
Alors Franck Vallière, vous aviez envie de souffler et de parler, allez-y.
J'ai écouté ce que Carrel disait à propos de la liberté des femmes, et pour moi, le film féminin de l'année, c'est Julie en 12 chapitres. Déjà parce que, en fait, il y a un truc qui est fascinant avec ce film, ceux qui l'ont vu, j'espère, auront ce même chemin de pensée. Si ce personnage était un homme, ce serait un enfoiré de première. Et parce que c'est une femme, ça change toute la lecture qu'on fait du film. Voilà une femme qui se cherche et qui a la malchance.
Une femme dans la trentaine qui cherche, qui cherche le grand amour.
Elle a la malchance de vivre avec des gens qui se sont déjà trouvés. Donc c'est un parcours vers soi que j'ai trouvé absolument sublime. On est amoureux d'elle de la première à la dernière seconde du film.
A eu le prix d'interprétation à Cannes.
Voilà, tout le monde est amoureux d'elle. Voilà, très bien. Attention, parce qu'on peut se dire, ouais, un film d'auteur, Joachim Trier, voilà, la Norvège, on nous prend de la tête avec Oslo,
c'est exactement
etc.
ce qu'on se disait.
Mais alors, pas du tout. C'est un film qui a l'humour incroyable. C'est très tendre, très triste aussi parfois, comme la vie. Mais c'est absolument immanquable.
D'accord, merci. Très bien. Et deux autres coups de cœur ?
Ah ben j'ai vu le Jane Campion, donc j'ai envie de vous dire un mot quand même de... Ah, elle n'a pas aimé Carrel ? Ah, t'as pas aimé ? Non. Bon, alors déjà la musique de Johnny Greenwood, je me suis dit, mais qui fait cette musique ?
Le titre du film, pour nos auditeurs, s'il vous plaît, monsieur. Power of
the Dog.
Merci.
Johnny Greenwood faisait la musique exactement comme il la faisait pour Paul Thomas Anderson dans There Will Be Blood, par exemple, c'est très anxiogène. On est à la fin, à la jonction d'une période des années 20, des années 30. On oublie d'ailleurs qu'on est dans les années 30, parce que de temps en temps, une voiture vient nous rappeler, parce qu'on est dans les plaines du Far West, une histoire de vengeance. Et surtout, ce que fait Jane Campion, qu'aucun homme n'arrive à faire, c'est travailler sur la masculinité de deux personnages et comment le drame va arriver. C'est
Power
génial.
Of Dogs, c'est sur les plateformes. Hein,
c'est sur Netflix. Ouais.
Et un dernier coup de cœur rapidement ?
Un français quand même, parce qu'il faut bien en ajouter quand
merci.
Même. Il faut noter que quasiment le seul film français avec Bacnor qui ne s'appuie pas sur un socle de spectateurs ou sur une suite pure et dure, c'est Boîte Noire, qui est le renouveau du thriller à la française, complotiste, comme on le faisait si bien dans les années 70.
Avec Pierre Niney.
La performance de Niney est très bien, le film est très bien, donc c'est un très bon film dont il faut savoir se souvenir. Notamment parce qu'il est avant tout français, parce que là on a cité que des films étrangers.
Pierre Niney, acousticien, qui. Oui, et elle a cité l'événement aussi.
Pardon.
Pierre Niney qui enquête sur le crash d'un avion et qui étudie la boîte noire, qui est acousticien, qui a des problèmes d'audition, qui a l'oreille. Comment on appelle ça ?
Absolue.
L'oreille absolue, voilà, merci. Et c'est vrai que le film est absolument génial.
Dans les Alpes, un Atrian 800 qui reliait Dubaï à Paris, au moins 300 passagers.
T'as pu avoir accès aux données à Cars et à la trajectoire ?
Ouais, l'appareil a piqué rapidement, ça a été très brutal.
Les experts du BEA ont été dépêchés sur les lieux de l'accident pour tenter de localiser les boîtes noires.
Mathieu, j'ai besoin de connaître l'enchaînement exact des événements.
Alors, Victor, on parlait d'Annette il y a quelques instants, l'un de vos gros coups de cœur de l'année.
Tout à fait. Alors, moi, je vous propose deux choses. Quelque chose pour rester chez soi et quelque chose pour rêver d'ailleurs et sortir en pleine liberté.
D'accord, on commence avec rester chez soi. Alors, parce qu'on est le premier,
exactement,
qu'on est un peu au ralenti.
On reste chez soi, on allume Netflix et on regarde Inside de Bob Burnham, film conceptuel qui m'a détruit. Film conceptuel qui m'a fait rire, qui m'a bouleversé. Film gigantesque qui naît du premier confinement où un artiste qui fait du stand-up que j'aime beaucoup s'est retrouvé enfermé chez lui et s'est dit je ne peux plus faire mon art sur scène, je vais le faire enfermé chez moi. Et il a réalisé un film en restant enfermé pendant 6 mois qui tient pour moi du mélange entre justement la comédie musicale et un film d'Alain Cavalier, genre Irène d'Alain Cavalier. Pour moi, on est dans une rencontre entre deux cinémas comme ça, le cinéma de l'intime, le cinéma de la perception de la dépression et de comment on vit avec des traumas, avec en face la volonté de s'en sortir, de faire rire par la musique, par le bon mot, par le jeu de mots, par l'époque, par la critique de l'époque. Inside de Bob Burnham, c'est, je pense, la meilleure chose qui est arrivée de cette pandémie. Je vais oser dire cette phrase, premier jour de l'an. Je suis heureux que le Covid ait existé pour qu'on ait Inside.
Ah,
c'est horrible. Horrible ce que je viens de dire.
On espère quand même un 2022 sans Covid.
Ah, on croise les doigts, oui, voilà, là, s'il vous plaît.
Merci.
Ou Inside 2. S'il y a Inside 2,
non. Allez, parlez pas d'alors. Que des choses positives aujourd'hui. C'est le 1er
exactement.
Janvier.
Et surtout la santé.
Et surtout une bonne santé, évidemment. Et dernier coup de cœur.
Et exactement, pour sortir, eh bien, je vous redis d'aller voir en salle. C'est en salle actuellement. Allez voir Matrix Resurrection.
C'est récent parce que vous en parliez la semaine dernière.
Mais tout à fait. Mais parce que c'est brillant et parce qu'il faut le rappeler, parce que le travail de Lana Wachowski n'est pas assez mis en avant. Et dans une période où on a énormément de blockbusters que je traiterais comme javelisés, avec cette envie de bien lisse, bien propre, bien comme il faut. Lana Wachowski arrive et met un coup de pied dans la fourmilière et vient expliquer « Libérez-vous, s'il vous plaît, il faut que vous veniez vous libérer ». Tout le film marche comme une sorte de regard sur ce qu'a été Matrix 1, ce qu'a été son apport. C'est un film qui se moque d'avoir été analysé et qui est pourtant un produit d'analyse brillant. Matrix Resurrection, c'est pour moi un des très 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 grands films de cette année, et je dirais même plus, un des blockbusters les plus importants de ces 10 dernières années.
Allez, carrément, il s'emballe. Et puis c'est vrai que là on parle de vos coups de cœur sur l'année 2021, mais si on parle de films qui ont marqué l'année à proprement parler, il y a eu quand même effectivement la Palme d'Or de Titan au Festival de Cannes, le deuxième film de Julia Ducournau. Est-ce que quelqu'un veut en dire un mot? Victor, ah, Victor a levé la main.
Ah bah, ce qui est intéressant avec Titan, c'est que ça continue tout le parcours de Julia Ducournau, qui est entre un cinéma à la Fémis, qu'on pourrait dire, un cinéma très franco-français, très étudiant, et en même temps un regard sur ce qui a été un cinéma de genre à l'étranger, que ce soit le travail de Cronenberg. Julia Ducournau conjugue non. encore, si, évidemment qu'il y a du Cronenberg quand tu regardes Titan, s'il te plaît Franck. Il n'empêche que elle continue de mélanger les styles, de mélanger les
en
genres.
En tout cas, de proposer des choses.
Et de donner des rôles brillants, notamment à Vincent Lindon, qui est dans le film flamboie. Si vous n'avez pas vu Titan, c'est quand même la Palme d'Or, jetez-y un coup d'œil.
Et puis évidemment, il y a eu aussi des beaux succès au box-office pour le cinéma français. Alors parmi les films qui ont le mieux marché, il y a Kaamelott, il y a Les Tuches, Bac Nord aussi, de Cédric Jimenez. On a adoré ce film ici, on l'a beaucoup soutenu, on en a beaucoup parlé, on est très contents de ce parcours. Les Baudins, qui fait partie des plus gros succès de cette année. OSS 117 aussi. Et Eiffel, vous avez des réactions les uns les autres?
C'est marrant, j'aime aucun de ces films.
Si, Bac Nord.
Non.
Bac Nord, on aime beaucoup.
Alors, Bac Nord, je dirais que c'est très bien réalisé. Si on veut commencer à parler de propos...
Non, ici on est là pour dire du bien et pour féliciter ceux qui se sont démarqués.
Tout à fait.
Merci à tous les trois. Tout de suite, c'est Didier Alouche qui nous raconte ce qui va se passer en 2022 à Hollywood. Bah, c'est intéressant quand même.
Oui.
Salut Laurie, salut à tous. C'était la semaine des « et tout d'un coup » à Hollywood. Et pas seulement parce que mercredi dernier, la série « And Just Like That » a démarré sur HBO Max. « And Just Like That », que l'on pourrait traduire par « et tout d'un coup », c'est la série suite, reboot, relaunch de la fameuse « Sex and the City » où l'on retrouve Carrie Bradshaw et sa bande avec quelques années en plus et une copine en moins. Samantha n'est plus de l'aventure, son interprète Kim Cattrall demander beaucoup trop d'argent pour revenir. Pas de problème pour le public qui a fait un triomphe à la série qui a battu des records d'audience sur la plateforme HBO Max. Le problème, c'est que pour attirer le public, il faut démarrer fort. À la fin du premier épisode, l'un des personnages principaux meurt en pleine séance de pédalage sur un vélo d'appartement de la marque de luxe Peloton, victime d'une crise cardiaque. Et tout d'un coup, les actions Peloton s'écroulent à Wall Street. Un désastre, une cata limite la ruine. Pour remonter la pente, Peloton a même tourné vite fait une pub avec le personnage mort de And Just Like That, histoire de tourner toute cette histoire à la bonne blague. A pas vraiment marché, les actions du groupe sont toujours au plus bas. Va falloir pédaler dur pour remonter tout ça. Et tout d'un coup aussi, Steven Spielberg se prend un bide. I like to be in America, okay by me in America, everything free in America, for a small fee in America. Okay. West Side Story est sorti en salle en Amérique vendredi dernier et n'intéresse pas grand monde. À peine 10,5 millions de recettes pour son premier week-end américain. C'est faible pour ce qui est pourtant un film splendide. Il est très difficile de faire revenir les plus de 40 ans dans les salles américaines depuis le Covid. Enfin bon, pour se consoler, Steven Spielberg peut toujours se dire que si jamais il est nommé à l'Oscar du meilleur réalisateur pour West Side Story, et on ne voit pas comment il ne le serait pas, il serait le premier réalisateur nommé dans cette catégorie sur 6 décennies différentes. Les années 70, c'était avec Rencontre du Troisième Type. Les années 80, Les Aventuriers de l'Arche Perdue et E.T. Il le gagne 2 fois dans les années 90 avec La Liste de Schindler et Il faut sauver le soldat Ryan. Et il est nommé dans les années 2000 avec Munich et 2010 avec Lincoln. Et tout d'un coup, cette chronique est terminée.
Merci beaucoup Didier et bonne année à toi aussi. Alors on va parler des films en salle et puis des films qu'on attend pour 2022. Mais d'abord, j'ai le plaisir de recevoir dans une poignée de secondes la comédienne Virginie Efira. Ne bougez pas, à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1.
Europe
14h, 15h, clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Merci d'être avec nous à l'écoute de Clap sur Europe 1. J'ai le plaisir cette semaine de recevoir une merveilleuse actrice qui sera à l'affiche le 5 janvier d'une comédie dramatique en attendant Bojangles. Virginie Efira, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Alors, je suis ravie de démarrer l'année avec vous et avec ce film que j'ai tellement aimé. Déjà, vous, qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant le film ?
Ah, mais toute la puissance de cinéma que j'ai ressentie sur le tournage, en fait. C'est-à-dire que... qui avait à la fois par les décors, les scènes à jouer qui sont beaucoup, qui étaient des scènes avec des pulsions d'existence, avec un désir de fantaisie, quelque chose qui rappelle un cinéma, ça ne veut rien dire, c'est un cinéma d'avant, mais je veux dire des films de De Broca, les films de Rapneau, dans toute la première partie du film, puisque pour eux, au départ, ça se passe merveilleusement bien, avant que des nuages plus sombres arrivent. Mais c'est vrai qu'en le voyant, d'abord, je l'ai trouvé très beau, en fait. Je crois que le chef opérateur, qui était aussi celui d'Artiste et tout ça, fait une lumière qui est vraiment très belle et que ça propose quand même un voyage assez dément. Et puis, c'est un film qu'on a tourné juste avant... l'apparition de notre ami Covid. Et du coup, c'est aussi ça, en fait, un truc de liberté. Comme le film, il a aussi un petit esprit 70, quoi. Genre dans les fêtes qui sont faites, la liberté, une idée d'éduquer un enfant comme on a envie. Enfin, il y a quelque chose... Ça respire très fort la liberté, quoi. Qui, aujourd'hui, est quand même plus complexe à toucher du doigt.
Ouais. Ah, bah, c'est vrai, quand on voit toutes les scènes de fêtes, très nostalgique de ça. Hein.
Bien sûr. Ouais. Et puis quand on tourne aussi, moi je suis dans une fête, je sens parfois que ça pourrait être chouette, que les gens s'amusent, mais on n'arrive pas tout à fait sur le moment à se libérer, etc. Et le film exigeait de moi qu'elle en profite ardemment, trop peut-être. Hein. Il y a toujours une notion où elle a quelque chose où tout devient plus drôle, plus libre, généreux et tout ça. Et puis il y a quelque chose du trop et donc ça verse vers l'autre côté.
N'y pensez même pas. Elle va vous faire perdre la tête. Imagine me and you.
I think Mario, nous tout de suite, nous allons oublier.
Je jure d'aimer toutes celles que vous serez, de les accompagner partout où elles iront. Partout. Absolument partout.
Comment va le fruit de nos amours?
Ah, vous le faites qu'un menteur. Ça n'existe pas, les parents qui n'ouvrent jamais leur courrier. Une fête avec 300 personnes tous les soirs, c'est ça?
Ça me prend parfois quand je suis summum du bonheur. Je passe à l'extrême inverse, sans cri égal.
Alors justement, vous, qu'est-ce qui vous a séduit dans cette histoire d'amour, dans ce personnage ?
Ben, le fait que ça fasse référence à ce cinéma-là, c'est-à-dire que moi, je crois que je suis très sensible à, peut-être par fidélité à mon adolescence ou mon enfance, d'abord aux histoires d'amour qui comporteraient l'endroit de fiction quand même, où c'est plus fort que tout, une sorte de...
Un amour de conte de fées, un amour presque irréel. Tellement
voilà, le mythe Roméo et Juliette quoi, qui arrive vraiment. J'étais sensible au fait que ça ne corresponde, que ça ne ressemble à aucun autre scénario, à aucune autre histoire, à un personnage... il y avait beaucoup de choses très très différentes à jouer, en fait. Elle est d'une très grande complexité. Mais je dirais vraiment, c'est ça, c'est de l'influx de cinéma. Ça correspond à un cinéma que j'aurais aimé adolescente, en fait. C'est vraiment, on dit, ça veut rien dire, ça. Ah, ça, c'est du cinéma.
Mais en même temps,
parce
ça veut rien dire.
Le cinéma,
ça veut
peut être plein de choses. Et le documentaire, c'est un film. Enfin, j'aime des cinémas très, très, très différents. Même des choses où il ne se passe rien, j'aime aussi. Mais là, il y a quelque chose où à 16 ans, j'aurais fait, ça, c'est du cinéma. Enfin, voilà, il y a ce truc-là. Voilà.
C'est vrai qu'on se dit ça en regardant le film, parce qu'effectivement, il y a du chant, il y a de la danse, il y a de la vie, il y a un oiseau exotique, il y a un petit garçon, il y a tout, en fait. Il y a tous les ingrédients. Il y a cette histoire d'amour qui vous transperce et qu'on pourrait attendre pendant une vie entière, en fait. D'ailleurs, justement, comment est-ce qu'on pourrait résumer le film, d'après vous ?
Il est difficilement résumable. Hein. Je ne vais pas vous aider dans cette question et tout ça, mais
c'est l'épreuve de la maladie, ça c'est sûr. De la folie, plutôt.
Oui, de la folie, c'est ça. C'est vraiment toujours entre la fantaisie et la folie. À quel moment les choses sont viables, ne le sont plus. C'est quoi la transmission? C'est quoi élever un enfant? C'est jusqu'où est-ce que l'amour passionnel peut durer? C'est pour ça que c'est chouette d'en parler. C'est qu'il y a plein d'axes possibles. Mais c'est pour moi, je dirais, je crois que c'est toujours les trucs qui m'intéressent. Je reviens toujours avec ce mot que j'arrête pas de répéter, alors que j'ai même pas de culture religieuse. Mais ça n'a rien à voir avec ça. C'est la croyance, en fait. C'est vraiment ça, c'est-à-dire, c'est savoir qu'on va mourir, mais de faire semblant que non.
Et elle est comme ça, d'ailleurs, elle, pour échapper à tout ce poids de...
Après, oui, si on rentre dans des dimensions un peu plus psychologiques, c'est un personnage où on sait qu'elle a eu une enfance difficile, très difficile, et qu'elle a été obligée, comme ça arrive souvent, en fait, hein, de se construire presque une autre personnalité pour survivre, que ça a probablement laissé des marques. Si on regarde ce personnage sur un point de vue pathologique, du coup, il y a de quoi faire déjà. Oui, c'est ça. Il y a des identités multiples, mais il y a dû avoir une construction dès l'enfance pour se sauver
c'est
l'horreur accrue dans laquelle elle était, de s'inventer autre chose, quoi, une sorte de protection, et ça a donné cette chose-là. Mais du coup, elle prend par la main avec elle et elle emmène. Voilà, il y a quelque chose d'assez métaphorique là-dedans, c'est-à-dire là, je vois que ce que ça produit, c'est, on dit souvent, tiens, moi j'aurais envie de pouvoir faire ça, c'est-à-dire que malgré tout, et c'est bien normal, dans la vie, on est un peu limité par plein de devoirs, de choses à remplir. Même à ma fille, je lui dis, tu ne peux pas que recevoir, il faut aussi que tu puisses donner des choses. Et je lui dis des trucs moches, je lui dis, la vie, c'est pas que ça. Genre après, tu vois, je ne serai pas toujours là, donc il faut aussi que toi... Enfin bon, donc il y a toute cette idée comme ça, il y a aussi des choses pénibles. Et quelque part, oui, est-ce qu'on peut vraiment fuir le réel? Est-ce que si la vie n'était que joie, insouciance et gin tonic, bon, ça serait génial, mais non, il y a toujours...
Mais il y a la réalité. Voilà, il y a la guerre, il y a la maladie.
Il y a toujours un principe de réalité.
Le
oui,
chômage.
Voilà. Mais on aimerait pouvoir par moment quand même, surtout dans la période dans laquelle on est là aujourd'hui, quoique je ne crois pas qu'il y ait une période bénie, quoi qu'en disent certains représentants à l'élection présidentielle. Je ne pense pas qu'il y ait une grande époque bénie de la France heureuse, merveilleuse,
non,
où tout allait super bien, c'était génial tous ensemble. Non, c'est l'histoire même et la condition humaine qui fait qu'on doit négocier avec des choses très différentes, mais parfois juste élargir un peu les horizons, se sentir plus libre, avoir moins peur, moins culpabilisé, sortir des endroits convenus, que ce soit sur l'éducation, sur l'école, sur la manière de s'aimer, sur un truc qui peut être presque exhibitionniste dans leur amour, mais en fait, juste qui se défait.
Oui, pouvoir marcher dans la rue nue.
Pouvoir marcher dans la rue nue, qui est une chose très particulière à jouer, ça, vraiment. Voilà, en fait, c'est ça. C'est que moi, j'ai eu des moments comme ça, de gens que j'ai pu rencontrer qui avaient ça. Je me rappelle, je me rappelle plus jeune, en Belgique, dès que je rencontrais Benoît Poelvoorde, par exemple, je ne parle pas des tournages, je parle dans la vie. Je me disais, c'est génial. Tout devenait, mais il est proche de Camille, hein. Je veux dire, c'est que...
Dans la fantaisie.
C'est-à-dire qu'il a un truc, c'est que tout devenait, pour moi, au moment où j'étais, la manière dont je regardais, c'est-à-dire un terrain de jeu incroyable, quoi. Mais ce que je veux dire, et qu'il rapprocherait de Benoît, le pauvre, je parle de lui, il n'a rien demandé, mais c'est que Benoît, et tout le monde le sait, c'est qu'il a aussi une mélancolie très forte. Il y a ça, en fait. On ne peut pas avoir cette extrême joie si ça s'accompagne forcément d'une mélancolie. On le sait sur les grands comiques, etc.
Ce sont les plus torturés. Ouais.
Il y a encore plein d'autres gens qui n'ont rien demandé. Il a raconté plein de trucs personnels sur plein de gens.
Moi, je veux bien. Hein. Est-ce que vous la comprenez, cette passion amoureuse avec Romain Duris, qui joue votre mari dans le film?
Oui, bien sûr.
Ils se sont trouvés.
Oui. Ça, je crois très fort à cette forme de magie, là, en fait. Il y a des choses qui sont très concrètes, parfois biologiques et chimiques, et qui peuvent, malgré tout, s'assimiler à une forme de magie. L'amour, quand même, il y a un peu de ça. Hein. C'est quand même, tu te dis, pour que cette chose-là arrive. Après, comment elle résiste autant, c'est encore une autre histoire et tout ça. Mais je crois qu'il y a vraiment cette idée de la reconnaissance, en fait. Cette espèce de chose où le coup de foot, ça existe, en fait. Hein. Il y a quelque chose, on a l'impression. Je ne sais pas ce qui est à la base de cette reconnaissance qu'on a. Moi, je crois que ça a à voir avec les failles, comme si on pouvait sentir les failles, que peut-être on les partage. ou un truc un peu plus Roland Barthes, fragment de discours amoureux, un peu plus dur du coup, sur l'idée qu'on croit qu'il y a une partie de nous qui peut être comblée, quoi. Mmh. Voilà, qu'il y a on a tous une sorte de vide, et l'autre
moitié
va venir combler cette
la
chose-là.
La moitié.
Oui, voilà, il va venir combler cette chose. Donc je crois très fort en cette reconnaissance, et en plus j'aime beaucoup, moi, c'est que ça se met tout de suite leur coup de foudre sur du jeu. C'est-à-dire, il la drague dans un truc où elle est en train de danser toute seule.
Ils sont tout de suite dans cet univers.
Oui,
ils
lui demandent comment elle s'appelle. Je crois qu'elle dit Jean-Pierre. Et il embraye. J'aime assez bien que ça se passe par un truc spirituel aussi. Mais cette spiritualité, c'est une manière aussi de vivre, en fait, de ne pas vouloir faire les choses juste basiquement et dire, bah, si on ressent ça, on pourrait se dire, bah, ils se connaissent depuis 2 minutes, du tout, comment ils peuvent. Mais c'est de croire aux sentiments, en fait. Et du coup, si on y croit, ça existe.
Dis, papa, elle est malade, maman.
Ni plus ni moins que la plupart des gens. Tu sais, les grands sont tous un peu malades. Hein.
J'aurais dû garder les pieds sur terre pour deux. J'aurais dû te protéger davantage.
Je vous aime parce que vous n'avez pas cherché à me protéger.
Nos racines, nos branches, nos feuilles, c'est elles. On doit faire en sorte que l'arbre tienne debout.
Et banal et triste. Inventez-moi une belle histoire.
Et lui, on a même l'impression que, en fait, dès le départ, il l'accepte comme elle l'est, mais finalement, ça comble aussi quelque chose chez lui. En fait, il...
Oui, je pense qu'il y a ça. Je pense que c'est à la fois très difficile de s'occuper de quelqu'un qui ne va pas toujours bien, mais qu'en même temps, il y a quelque chose d'assez épanouissant à avoir un rôle et à aimer et à aider quelqu'un d'autre.
Oui, ça lui donne un sens aussi.
Oui.
Vous avez des scènes de danse avec Romain Duris. Mm-hmm. Ça s'est bien passé ?
Oui, très bien. Très bien. Il a fallu pas mal de travail parce que j'ai des capacités assez réduites.
C'est votre perception ?
Oui, c'est ma perception. Et aussi, c'est un truc d'expérience. Je veux dire, moi, dans les fêtes, les trucs où les gens dansent, pendant très longtemps, j'étais à côté. Jamais. Je parlais en buvant des verres. Quoi. Donc vraiment, il y avait un truc sur la danse qui n'est pas du tout... même les trucs faciles, quoi. Même, j'ai du mal à me défaire de moi-même. Je me vois toujours et je me trouve grotesque. Mais j'aime énormément les films où les gens dansent, en revanche.
C'est-à-dire que... musicales.
Oui, énormément. All That Jazz de Bob Fosse, c'est vraiment mon truc. Mais grave, j'adore énormément. Et du coup, je pense que ce qui a compensé ça, c'est ce désir de cinéma-là. J'aime tellement ça que, bah, alors du coup, je m'oublie moi-même, ma perception d'être un éléphant, machin, etc., pour y croire. Et puis après, ça, pour le coup, c'est un truc qui se travaille.
Si bel éléphant.
Si bel éléphant, petit éléphanto sympa. Mais après, c'était vraiment beaucoup de travail en amont de répétition et tout ça. Mais c'était aussi comme ça que j'ai rencontré Romain dans le travail. Et c'était chouette parce que du coup, il y avait une obligation de se toucher, de trouver un rythme commun. Oui, et ça, c'était très. Ça nous a beaucoup avantagé pour la suite, pour qu'il n'y ait pas entre leur action et le coupé de pudeur, qu'il y ait déjà une corporalité entre eux, quoi, qu'on sente qu'ils se connaissent.
Il fallait s'abandonner hein, sur ce tournage. Vous avez des scènes quand même assez costauds.
Oui, c'est ça. En fait, je crois que chaque fois qu'on joue, il faut essayer de s'abandonner, quel que soit le personnage. Mais peut-être que là, ce qui était plus particulier, c'est qu'il ne faut pas qu'on comprenne la manière. Enfin, comme il y a une déstructure chez elle, si on sent trop que c'est bien mis en place, ça ne marche pas. Et ça, c'est difficile. C'est comme s'il fallait s'embrouiller soi-même. Et ça, c'était un peu compliqué. C'est heureusement que j'ai pu compter sur Régis, etc., sur certaines scènes, pour savoir ce qu'il fallait faire et pas trop savoir ce qu'il fallait faire. Enfin, c'était un peu bizarre.
Vous leur dire à oublier son oiseau ? Dangereux de trimballer un animal pareil.
Georges, qu'est-ce que vous attendez ? C'est trop vous demander de faire quelque chose pour moi ?
Bon. Je vais emmener mademoiselle dans la chambre de Gary. Attends qu'elle cesse de vous importuner.
Pourquoi pas la ramener à Paris avec nous tant que vous y êtes ? Vous êtes complètement à côté de vos pompes, ma parole.
Enfin, Olga, je vous assure que cet oiseau est totalement inoffensif. Cette idée va vous sortir de la tête aussi vite qu'elle y est entrée.
Arrêtez de me parler sur ce ton. C'est insupportable.
Non,
vous ne comprenez pas. Vous ne voyez donc rien, elle me juge. Depuis qu'elle est arrivée, elle se moque de moi. Elle scrute le moindre de mes faits et gestes avec son petit air supérieur. Elle me dit des choses atroces. Que je ne vous mérite pas, que je ne suis pas à la hauteur. Elle dit tout ça là, juste devant vous, et vous l'ignorez.
Alors, le film, on pourrait en parler pendant des heures, mais le mieux, c'est de le découvrir au cinéma.
Oui, je vraiment, pense. Je pense que ça serait très chouette que les gens aient très le sympa voir de votre part. Parce que je crois que le film est cool.
Merci beaucoup, Virginie Fira.
Merci à vous.
Je peux juste vous demander si vous avez un film que vous comptez voir en 2022. Il y a beaucoup de suites. La nouvelle Indiana Jones, la nouvelle âme fatale, Mission Impossible, il y a le nouveau Stéphane Brisé.
Oui, je l'ai vu, génial. C'est un très grand film sur la négociation. Toutes les négociations à faire dans une vie. Le film a fait pleurer. Bon, il y a Lindon qui est de nouveau est assez fou. Il y a une dernière scène qui est sublime. Vraiment, il faut aller le voir.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Virginie Efira, pour la nouvelle année ?
De manger un tout petit peu moins en janvier qu'en décembre. ça serait chouette parce que vu tout ce que je me suis enfilé, là, ce serait vraiment sympa.
Et en même temps, il faut profiter de la vie. Merci beaucoup. Oui,
merci.
Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous êtes bien à l'écoute de Clap et en ce lendemain de fête, quoi de mieux qu'une bonne séance de cinéma ? Franchement.
La paix dans le monde ?
Oui, c'est vrai. Allez, on prend. Alors, on va vous parler dans quelques instants des attentes sur les films de 2022. Mais juste avant, un point quand même sur les films à voir en ce moment au cinéma. On commence avec Belle, véritable coup de cœur, film d'animation japonais qui va vous transporter par son esthétique et puis par son histoire. Et puis aussi par la voix de la chanteuse Louane qui double le film dans la version française.
Bienvenue dans le monde de You. Dans la réalité, on ne peut pas changer de vie. Dans You, tout est possible.
Une mélodie pour m'envoler.
C'est pas possible. C'est vraiment moi. Je chante. J'ai réussi.
Mais d'où il sort celui-là ?
C'est un monstre qui vit dans You.
Je ne peux pas te dire la vérité.
Attends ! Il te fait pas confiance, tu comprends ça ?
Laisse tomber, c'est mort. Il te dira jamais où il est.
Aidez-moi, s'il vous plaît! Où il est? Aidez-moi à le trouver!
Karel Fitoussi, on aime beaucoup.
Moi, j'ai adoré. C'est une relecture du conte La Belle et la Bête au temps du virtuel et des réseaux sociaux.
Film de Mamoru Hosoda.
Voilà, c'est un conte qui a toujours inspiré Mamoru Hosoda. Il en avait déjà un peu parlé dans Les Enfants Loups et dans Le Garçon et la Bête. Lui, il avait été très, très, très marqué, notamment par le film de Disney en 91. Sauf qu'il trouvait que ce soit cette adaptation ou que le film de Cocteau s'intéressait surtout au personnage masculin, qu'ils humanisaient le personnage masculin de la bête. Et lui, voilà, il estime qu'il faut rendre humaine ce personnage de Belle en la définissant autrement justement que comme une belle femme, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire la beauté aujourd'hui ? C'est un peu plus que juste voilà qu'on peut voir dans West Side Story, pardon, juste un personnage féminin beau qui ne sert pas à grand-chose d'autre que ça. Là, elle existe et c'est intéressant. Et au-delà de ça, c'est, il me semble, un des rares cinéastes à ne pas dire un peu bêtement que Internet c'est mal et que le feu ça brûle, quoi. c'était déjà le cas il y a plus de 10 ans dans Summer Wars, donc c'est un des premiers à avoir fait ça. Il dit que voilà que les réseaux sociaux c'est pas qu'une bête monstrueuse et qu'on peut aussi s'y révéler artistiquement, y faire des rencontres, etc. C'est un film absolument sublime esthétiquement et très contemporain.
Victor ?
Assez passionné par le film qui me plaît davantage d'ailleurs que ce qu'avait fait Mamoru Hosoda dans son film précédent qui était Mira et ma petite sœur que j'aimais un peu moins. J'aime beaucoup justement tout le propos qu'il a sur les réseaux sociaux, sur la réputation des réseaux sociaux, sur comment on se construit une persona sur ces réseaux. Alors moi j'aurais quelques limites sur le système même du film qui te plonge dans un univers virtuel et au contraire d'un Ready Player One qui expliquait plutôt bien ses règles et le fonctionnement de l'univers. Là tout semble un peu flou. En fait il y a un plaisir de l'émotion, un plaisir de l'image, un plaisir même musical dans le film de Hosoda qui est passionnant. Par contre pour les explications et les choses relatives à un scénario qui éviterait les facilités, on repassera. J'aimerais d'ailleurs dire un point sur la VF parce que moi personnellement je l'ai vu qu'en VO et j'ai une hâte folle de le découvrir en VF parce que Louane, on le sait, a déjà travaillé pour faire de la VF, notamment dans Les Indestructibles 2. Et
elle a déjà fait pas mal de doublages.
C'est ça, exactement. Et là en plus, les textes des chansons sont signés par Cécile Corbel. Cécile Corbel qui avait composé déjà de la musique pour Ghibli dans Arrietty, le petit monde des chapardeurs. Très hâte de le voir en VF.
Et un autre film qui est actuellement au cinéma, c'est Tromperie, le nouveau film d'Arnaud Desplechin qui était présenté au dernier Festival de Cannes avec Léa Seydoux et Denis Podalydès.
Naturellement, tu m'as manqué.
Qu'est-ce qui te manque ?
Tu veux savoir ?
Non, pas de propos grivois, s'il te plaît.
Je suis un écouteur, je suis un audiophile.
Un audiophile, mais quelle connerie prétentieuse. Très érotique.
Elle n'est que des mots. J'ai beau essayer, je suis pas capable de baiser des mots.
Et je me fous de ce que les gens comprennent ou ne comprennent pas.
Ou comprennent trop bien.
la voix de Denis Podalydès qui, comme ça, ressemble à celle de Mathieu Amalric. Peut-être qu'on a tellement l'habitude d'entendre Mathieu Amalric dans les films d'Arnaud Desplechin.
Et quel plaisir de retrouver Desplechin. Quel plaisir de retrouver son cinéma après un Roubaix et une Lumière qui était déjà très beau. Tromperie arrive alors avec un registre en plus, moi, que j'aime pas déjà de base. C'est-à-dire qu'on me dit voilà une histoire d'auteur sur ses amours bourgeois. Il écrit sur les femmes avec qui il trompe sa femme. Déjà, je m'ennuie. Je suis très, 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 très loin de tout ça. Et en fait, surprise. Le film est superbe. Le film est très beau, le film est tendre, le film a plein d'idées de mise en scène assez folles de la part de Desplechin, qui va commencer à imager les paroles de ses spectateurs, à travailler sur le montage, tout en respectant, parce que c'est adapté d'un texte, tout en respectant le texte de l'auteur originel, en jouant un peu avec son spectateur, parce que la tromperie, est-ce la tromperie des personnages, ou la manière dont Desplechin nous amène dans un film qui nous trompe sur comment le film a été adapté. Le film fait encore partie, mon amie Sophie le dit souvent, du Denis Podalydès On veut le baiser universe. Vraiment, tout le monde veut coucher avec Denis Podalydès cette année.
En 2021.
C'est incroyable. Eh bien, ça continue et vous savez quoi? Je n'y ai jamais cru avant ce film-là. Là, dans ton prix, j'ai dit « Ok, Denis Podalydès, let's go, allons-y. »
Carré.
Et ben moi je n'y ai pas plus cru dans ce film-là. Et d'ailleurs je me suis demandé ce qu'aurait été ce film si justement Mathieu Amalric l'avait incarné et qu'il n'avait pas été pris sur Tralala. Je pense que j'aurais été peut-être plus réceptive et que par exemple la scène de retrouvailles avec Emmanuel Devos aurait été autrement plus méta et émouvante.
Elle est sublime.
Non, moi je trouve que c'est un exercice de style très froid et très artificiel.
Alors un autre film cette semaine, c'est The Card Counter, l'histoire d'un ex-militaire expert en poker qui fuit son passé. C'est le nouveau film de Paul Schrader, connu notamment pour son film culte, Taxi Driver.
Oui, scénariste.
Oui, c'est vrai.
Ayant été condamné à 10 ans de prison, j'ai appris à compter les cartes.
Comment vous faites ?
Le poker, c'est une question de patience.
Check, relance, sur relance, suivi.
Et soudain, il se passe quelque chose.
Tu sais qui c'est, hein ?
Ils vous ont envoyé en enfer. Vous leur avez servi de bouc émissaire. Vous voudrez peut-être participer à ce que je vais faire.
Et tu vas faire quoi ?
Mettre les choses au clair.
Aïe, aïe. Alors, on va voir ce film en VO. Hein.
Franck Vallière.
On va voir ce film en VO, s'il vous plaît.
Écoutez, soyez respectueux.
Non, mais c'est le jeu d'Oscar Isaac est tellement fascinant dans ce film-là. Bon, Paul Schrader, Raging Bull, Taxi Driver, donc pas un touriste. Hein. Mm-hmm. Voilà. Et il a écrit une sublime histoire avec des twists assez nombreux qui vont jusqu'au bout nous expliquer un peu les raisons d'un type qui est un peu autiste. Pourquoi est-il autiste ? Il a de bonnes raisons. Pourquoi se prend-il d'amitié pour un jeune homme a priori perdu qui va glaner quelque argent dans l'Amérique un peu morne des casinos où tout est un peu vide, comme a priori son esprit, alors qu'il est rempli de plein de traumatismes. C'est vraiment super chouette.
Victor.
Et au-delà même de l'écriture, il faut parler de la mise en scène parce que Paul Schrader, justement, après des films justement dans les années 70, les années 80, on pourrait citer Hardcore, on pourrait citer plein, qui expérimentaient déjà, il continue d'expérimenter. C'est quand même un réalisateur âgé qui est un des rares à se dire qu'est-ce que je peux proposer de nouveau à l'image, et notamment, je vais prendre une caméra 360, je vais aplatir l'image et comment je vais créer de la mise en scène à travers de l'image 360 projetée dans un écranscope. C'est brillant ce qu'arrive à faire en termes de mise en scène Paul Schrader, au-delà même de son écriture. Allez le voir pour son image qui est si particulière. C'est quand même incroyable de se dire qu'il faut des papilles pour venir expérimenter. Les jeunes, expérimentez un peu aussi, s'il vous plaît.
Et on dit aussi un mot du film Lamb, film islandais qui mêle horreur et drame. Karel Fitoussi, vous l'avez vu ?
Je l'ai vu, je pense que c'est le but, hein, j'ai été assez mal à l'aise, c'est un film malaisant, je pense que c'est malaise ciné quoi.
Faut quand même dire
donc c'est un couple d'éleveurs qui découvre un bébé, c'est ça, mi-homme, mi-agneau,
voilà.
Franck ?
Une de leurs brebis accouche d'un hybride, on va dire. Sauf qu'il faut quand même préciser que c'est un film de genre, mais qui se base sur un traumatisme, en l'occurrence le travail de deuil. Ce couple-là n'a pas fait son deuil de quelqu'un, je ne dirais pas qui, et ils trouvent une occasion de renaître sentimentalement et dans leur vie de paysan islandais. Et tout le film déroule quelque chose qui est effectivement assez malaisant, mais qui parle du travail du deuil, en fait. Et c'est assez joli. Je note d'ailleurs, et je viens de trouver, c'est dans un Ridley Scott. C'est dans Prometheus. Cette vallée est dans Prometheus de Ridley Scott.
Excusez-le, ils sont nombreux dans la tête de Franck Vallière. Mais okay. L'essentiel, c'est qu'il se comprenne lui-même.
Ça y est, j'ai compris pourquoi ce plan m'obsédait. C'est du cinéma de genre, d'accord, mais le fond, c'est sur le travail de deuil. Donc forcément, on est au début d'année, on n'a peut-être pas envie d'y aller, mais l'image est absolument sublime. Certes, le contexte est un peu pesant, mais par contre, c'est psychologisant sur le travail de deuil à faire. Sinon, ça nous revient en boomerang, comme nous l'explique le film.
Une actualité du cinéma chargée, mais moi je voulais juste vous dire un mot sur un film joyeux, musical, qui met de bonne humeur. Ça s'appelle Nos plus belles années. C'est une chronique de vie, l'histoire de quatre amis racontée sur 40 ans en Italie, des années 80 à aujourd'hui. Et vraiment, ça vaut le détour. Merci beaucoup. Alors, Karel, Franck, Victor, gardez votre énergie, restez à mes côtés. On continue à parler des films qui feront l'actualité de 2022 dans un instant sur Europe 1.
Clap. Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous êtes bien à l'écoute de Clap, l'émission qui vous raconte le cinéma. Alors, on va vous parler maintenant des films très attendus en 2022. Moi, je vais commencer par les sorties françaises, parce qu'il faut savoir que le 2 février, déjà, on aura le plaisir de retrouver la famille Verneuil. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu 3? Le couple fête ses 40 ans de mariage et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas du tout au bout de leur surprise.
Quelle tuile.
Qu'est-ce qui se passe encore? Ils ont pris notre chambre.
On a tiré au sort les chambres et toi et maman, vous dormez dans la yourte.
Quoi?
Vachement sympa.
Une petite orange?
Regardez-vous, elle vient de Jaffa.
On voit bien que vous n'avez jamais goûté celle de Constantine.
Shalom.
Shalom alaikum.
Ils ont tous un problème. Alors, c'est une belle brochette de cassos sur ça. Merci à nos jambes. Hein.
Je peux goûter la sauce?
Tu t'as regardé? Tu es gras comme un facouché.
Femelle sadique.
Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu, Claude?
Il n'en sait rien.
Comment on dit en France? Chacun sa merde.
La semaine suivante, le 9 février, sort le nouveau film de Philippe Lachaud, super-héros malgré lui, qu'on attend avec impatience. Un jeune acteur est victime d'un accident alors qu'il tourne un film en costume de héros. Il se réveille amnésique et il est alors persuadé qu'il est un vrai justicier. Vous imaginez la suite, on retrouve évidemment la bande habituelle qui a fait le succès de tous les films de Philippe Lachaud.
Faut le rattraper avant qu'il fasse une connerie. Oh pardon.
Celui-là, quand on va le coincer, il va prendre très très cher.
Je peux pas faire prendre de risques à ses enfants.
Comment de tous les spermatozoïdes, il a pu arriver le premier?
Je suis désolé, c'est terriblement gênant.
Je comprends mieux pourquoi les super-héros mettent leurs slips par-dessus leurs pantalons.
Et puis enfin, et je crois qu'il fait aussi partie des attentes de Victor Bonnefoy, Les Vedettes, le nouveau film du Palmois Chaud de Grégoire Ludig et David Marsais, qui va sortir, lui, le 16 février.
Tout à fait, Gary. On attend impatiemment le nouveau film du Palmois Chaud, puisque le premier Max et Léon était déjà un plaisir et une réussite. Je prie pour une nouvelle réussite. Et
ils sont très doués.
Ils sont très doués.
Bien, alors, lequel est Daniel, lequel est Stéphane?
Je suis Daniel.
Stéphane Chevalier. Ah oui, vous êtes l'employé du mois, c'est ça?
Effectivement, j'ai été employé du mois pendant un an.
Tu les as entendus te demander « Raconte-nous ta vie pourrie chez Univertech ?»
99 euros. 1490. 450 euros.
Tu dois être un truc un peu à la Rain Man.
Tu es au-dessus de la moyenne?
Non, en dessous. Ou autiste. On va passer à la télé, c'est génial.
Ça m'intéresse pas, Daniel.
Il y a le prêt à tout prix qui nous a appelés, on est sélectionnés.
Tu me dis nappe?
On vient de se faire virer, on va peut-être gagner 100 000 balles. Ouais, bah ouais, de rien, ouais.
On me dit que vous chantez.
Ouais, mais non, ça, j'ai arrêté, ça.
Putain, chante, Daniel, allez!
Chantez pour les gens qui sont seuls.
Merci, Daniel. Quel beau bras.
Oh, les barricades!
Ok, tout le monde, on a un champion, on garde les caméras sur lui.
D'autres attentes pour 2022?
Oh, plein de registres différents.
Oh,
je vais essayer d'aller,
je vais essayer d'aller
très très vite. Alors, j'ai envie de parler de Nope, qui est le nouveau film de Jordan Peele, qui avait fait Get Out, qui avait fait Us, qui revient avec un nouveau long métrage. Très hâte de voir ça. Licorice Pizza, nouveau film de Paul Thomas Anderson. On a envie d'avoir du Paul Thomas Anderson dans nos cinémas depuis Phantom Thread.
Bah,
on a
là, envie qu'il
revienne. Il paraît que le film est génial.
Bah oui!
Tu sais qui je suis?
Ouais.
Et tu sais qui c'est, ma copine?
Barbara Streisand.
Barbara Streisand.
Sand,
comme dans sandales, comme dans sentiments.
Barbara Streisand.
Oh non, Streisand.
Sand.
C'est le destin qui nous a réunis. Nos chemins nous ont menés jusqu'ici.
Je vais pas suivre ton scénario. Tu veux voir Minichon ou pas?
Je peux toucher?
À demain.
Il sort le 5 janvier.
Ah oui, donc il sort en fait là, maintenant.
Oui,
allons-y.
Dans 4 jours.
On attend le nouveau Batman par le réalisateur qui avait fait les 3 derniers Planète des singes et qui va arriver avec quelque chose de beaucoup plus sombre, de beaucoup plus violent. Merci Matrix pour ça. On attend de la science-fiction à la française parce que oui, il faut dire qu'il y a des envies de science-fiction à la française. Et notamment, on avait eu Le Dernier Voyage cette année. On va avoir Le Visiteur du Futur qui va arriver, réalisé par François Descraques. C'est ma génération, je le connais. C'est des gens qui viennent du web et qui finissent au cinéma. Je suis content. Allez-y les gars, on est avec vous. Il y a Les Vedettes, donc Palmajo, mine de rien aussi, des gens qui viennent d'Internet. sortent et qui finissent au cinéma. The Northman, le nouveau film de Robert Eggers.
Vous voulez dire que vous voulez finir au cinéma?
Pour toujours, pour toute la vie. The Northman, donc nouveau film de Robert Eggers après The Witch ou après encore The Lighthouse. Il y a Elvis, le retour de Baz Luhrmann au cinéma. On a une année folle quand même. Et quand on dit Baz, ça ressemble à Buzz. Et Buzz, comme Buzz l'éclair. Puisque Buzz l'éclair, et Buzz l'éclair, nouveau film des studios Pixar.
Bon, moi je vais y aller. Hein, parce que
et attends, j'en ai un dernier, Franck, j'en ai un dernier. Parce qu'en décembre, voyons loin dans le futur. Qu'est-ce qu'on a dans le futur?
Alors
Noël.
Noël. Avatar 2, enfin magnifique. James Cameron qui arrive avec son Avatar 2, avant son Avatar 3, puis son Avatar 4, puis son Avatar 5.
Ouais, super, merci.
J'ai
bon,
tellement
on a
hâte.
De quoi faire, on ira au cinéma en 2022. Karel ?
Alors moi j'attends aussi énormément Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson qui est avec c'est un teen movie dans les années 70 et on a vraiment envie de vivre dans ce film. C'est avec le fils de Philip Seymour Hoffman qui était un peu son acteur fétiche voilà. J'attends très fort Les Enfants des Autres de Rebecca Zlotowski qui sera vraisemblablement à Cannes, qui est avec Virginie Efira, Rose Dizem et Chiara Mastroianni. J'attends Anatomie d'une chute de Justine Triet, pardon, il va y avoir beaucoup de femmes et beaucoup de Français.
On a beaucoup Justine Triet.
Voilà, et c'est encore un peu comme son comme Victoria, j'allais dire son premier, son deuxième.
Avec Virginie Efira.
Un film dans le milieu un peu judiciaire et des tribunaux. Et j'attends aussi très fort Chronique d'une liaison passagère d'Emmanuel Mouret avec Sandrine Kiberlin et Vincent McCain.
D'accord.
Franck Vallière.
Moi, j'ai juste envie de vous parler d'un film que j'attends qui sortira
un
en février.
Seul, ouais, une seule attente sur 2022.
Non, mais j'en ai plein, mais on a, sinon, les gens, il faut prendre des notes, on s'en sort plus. Moi, je m'en sors plus avec tout ce que Victor vient de dérouler.
C'est sûr que Franck, il prend pas de notes. Non, il vient les mains dans les poches.
Bah, j'adore. Alors, moi, j'ai quand même envie de vous mettre l'eau à la bouche en vous parlant deux secondes du Stéphane Brisé.
D'accord, allez.
Qui s'appelle Un autre monde.
Que vous avez vu.
Oui, que j'ai vu.
Donc, allez,
c'est absolument
allez,
génial.
Faites-vous plaisir.
Il remet le casting de Mademoiselle Chambon, c'est-à-dire Kiberlin et Lindon, ensemble, en faisant l'antithèse de la loi du marché. Dans lequel Lindon jouait un syndicaliste. Là, il lui fait jouer un des patrons du CAC 40, bien sûr salarié d'un gros consortium américain. Et c'est axé sur les dommages collatéraux sur la vie de couple et la vie de ces personnes-là. Waouh ! Je me suis pris un truc pleine face. Ça sortira en février. J'espère qu'on en parlera dans long, large en travers. Peut-être que Vincent et Sandrine viendront dans l'émission, non ?
Avec plaisir. En tout cas, nous, on les invitera.
Ah oui.
Mais Franck, on n'a même pas parlé d'Indiana Jones 5.
Non ?
Oui, mais ça. Alors oui, bah oui.
Et
non,
Top
mais
Gun, quand même. Et Top Gun 2, mais qui sera sans doute au prochain Festival de Cannes aussi.
Il y a trop de choses. Le nouveau Mission Impossible. On va avoir des très jolis blockbusters en salle. Bah, d'un côté, ils ont eu le temps. Là, c'est bon. Allez, les tournages, c'est fini. Maintenant, on sort des films, s'il vous plaît.
Ça va être l'année Tom Cruise, alors.
Ah là là.
Et on attend aussi Nos âmes d'enfants de Mike Mills avec Joaquin Phoenix, qui sort le 26 janvier.
La transition entre Mission Impossible et Nos âmes d'enfants.
Eh oui.
Aucune douceur ici.
Il en faut pour tous les goûts.
Je suis plus Joaquin Phoenix que Tom Cruise, désolé.
Ah, je comprends.
Merci à tous les trois, c'est déjà la fin de ce clap. Merci de nous avoir suivis pour ce premier jour de l'année. Je rappelle qu'aujourd'hui, je recevais Virginie Efira qui sera à l'affiche le 5 janvier en attendant Beau Jeune Girls. Et surtout, on vous souhaite à tous encore une fois une belle année.
La santé, avant tout.
Évidemment la santé, un porte-monnaie bien rempli et des amis.
Et, voilà. que les gens retrouvent le chemin des salles de cinéma, ça serait pas mal.
À condition que ce ne soit pas pour aller voir que des films Marvel.
Je suis bien d'accord, Karel Fitoussi, c'est la voix de la raison. Merci beaucoup et surtout, restez avec nous sur Europe 1. À bientôt.
Bonne année.